La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alain Fournier pouvait-il réellement vieillir ? Fauché en 1914 par des balles allemandes à l'orée du bois de Saint-Rémy, il a finalement réussi, quoique d'une tragique manière, à rester pour toujours un jeune homme, un adolescent, peut-être même presque un enfant. Sa vie, ce fut la littérature, la rêverie et aussi l'amitié avec son camarade et bientôt beau-frère Jacques Rivière, futur patron de la Nouvelle Revue Française, dont la vie fut courte également. L'existence d'Alain Fournier, eh bien nous en avons parlé, c'était lundi dernier avec Ariane Charton, au cours d'une émission que vous pouvez retrouver en téléchargement. Fournier fut-il l'homme d'un seul livre ? Bien sûr que non, nous a expliqué hier Philippe Berthier, qui est le maître d'œuvre du volume de Pléiade du Grand Maulne paru il y a peu chez Gallimard. Il faut en effet se souvenir aussi des autres textes, des nouvelles et des articles, ainsi que de sa très belle correspondance avec justement Jacques Rivière. Et puis demain, pour terminer la semaine, nous serons avec Sylvie Sauvage, qui nous parlera du thème de la lecture chez Fournier, à la fois ses lectures à lui d'ailleurs, et aussi celles de ses personnages. Et aujourd'hui ?
Oui, l'imminence de l'enfance sur la vie tout entière, c'est bien cela ton art. Ce sera cela, quand tu seras plus résolu encore et plus oublié encore de toute littérature. Et alors ce sera très beau. J'imagine par instant ce que ce pourra être avec ta passion du terroir et des paysans. Je rêve d'une épopée. Ce sera beau. Et ce qui serait beau, ce que je rêve, ce seraient tous ces personnages, le paysan que tu as rencontré et l'autre qui veut qu'on ferme les barrières, tous ces personnages vivant sur le même plan, au même niveau de vie. Et cela écrit d'un ton qui n'établirait pas d'appréciation, de distinction de valeur. C'est cela qui serait beau. C'est cela que tu dois faire.
De Fournier à Rivière, lu par Olivier Martineau. Et bien aujourd'hui, pour parler de ce roman ambigu de l'enfance qu'est Le Grand Maulne, l'œuvre phare d'Alain Fournier, nous sommes en votre compagnie, Tiphaine Samoyau, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne, également romancière et essayiste. Vous venez par exemple de publier il y a peu au seuil l'essai intitulé « Traduction et violence ». Vous êtes également critique littéraire à la revue en ligne « En attendant Nado ». Et vous avez présenté « Le Grand Maulne » dans l'édition de poche GF Flammarion, c'était en 2009. Édition qui s'accompagne d'un dossier à même d'intéresser les lecteurs de tous les âges. Alors justement, à quel âge avez-vous vous-même découvert ce roman « Le Grand Maulne.
Je l'ai découvert à l'adolescence, mais je l'ai vraiment redécouvert en le retravaillant à l'âge adulte, parce que c'est un roman dont j'avais pas gardé un souvenir exact, ou en tout cas que j'ai lu différemment adulte. Et donc je l'ai découvert deux fois en fait.
Mais vous l'avez quand même découvert la première fois, c'est-à-dire que on peut le lire adolescent sans tout à fait le comprendre et en retenir quand même quelque chose d'important.
Oui, tout à fait. Oui, le livre m'avait plu à l'adolescence, mais j'y avais retenu des aventures d'enfants et d'adolescents, et j'y ai lu bien autre chose ensuite, qui pourrait peut-être intéresser aussi les adolescents d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Alors ben justement, à la fin de votre édition, on trouve un certain nombre d'analyses dans un dossier qui sont des analyses un peu psychologiques finalement des personnages du Grand Maulne et des analyses qui rapprochent la psychologie de ces personnages avec la psychologie des adolescents d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes adolescents, on imagine quand même, mais il y a des choses qu'on peut retrouver.
Oui, il me semble que la lecture, bon d'abord, ça n'est plus un classique scolaire prescrit, hein, c'est quelque chose qu'on peut souligner d'emblée, c'est que la consécration ou la canonisation que représente l'entrée à la Pléiade de ce livre coïncide aussi avec le fait que ce livre n'est plus un classique, il a été le classique du XXe siècle, le classique scolaire du XXe siècle, il a connu un succès populaire gigantesque, donc il a connu une forme déjà de consécration majeure, mais cette consécration là de la Pléiade, c'est une consécration d'une nature toute différente et qui est assez paradoxale puisqu'elle arrive au moment où le livre n'est plus lu à l'école, n'est plus prescrit. On n'a pas l'impression qu'on pourra intéresser des adolescents avec ces histoires de petits paysans qui s'amusent en faisant des fêtes déguisées. Et donc, c'est très difficile pour les enseignants du secondaire d'intéresser leurs adolescents actuels.
On a raison d'après vous ou pas ?
Oui, en partie. Je dirais qu'on a raison en partie. On a besoin aussi de certaines lectures à certains moments de l'histoire. On peut penser que certains livres appartiennent aussi à un temps de l'histoire. Moi, je le crois profondément. Je pense pas que les chefs-d'œuvre soient éternels. Pour moi, c'est une idée assez fade.
Il y a des classiques qui meurent alors.
En tout cas, des classiques qui se taisent provisoirement peut-être, hein, ou dont l'éclat est moins fort à certains moments. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas fluctuant ou sinusoïdal comme mémoire possible. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont morts. Mais qui n'ont plus la même acuité dire qu'est-ce que c'est qu'une lecture scolaire. C'est une lecture qui est censée éveiller du désir pour la lecture, mais aussi former. Et je suis pas certaine que les enseignants d'aujourd'hui pensent que leurs élèves adolescents vont être formés par ce livre. Mais moi, en même temps, je dis cela donc parce que je défends l'idée que peut-être c'est un livre qui peut paraître avoir des côtés démodés, mais je défends aussi la possibilité qu'on puisse faire de nouvelles lectures de ce texte. Et c'est pour ça que je trouve bien qu'il y ait un regain d'intérêt avec cette publication en Pléiade, même si c'est pas les mêmes lecteurs hein, ou lectrices, les lectrices adolescentes et les lectrices ou les lecteurs de la Pléiade.
En tout cas, ce qu'il faut noter, Tiphaine Samoyo, c'est que c'est un roman d'une assez grande complexité et qu'il y a plusieurs fonds à ce roman. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc un roman de l'adolescence, oui et non. Le sujet aussi peut être mis en cause, peut être mis en question.
C'est un roman très complexe. D'abord pour cette raison, c'est qu'on ne comprend pas quel âge ont les personnages. Pourtant, la narration le dit, hein, on nous dit qu'ils ont entre 15 et 17 ans, dans la dernière partie, ils ont 20 ans, donc ce sont des adolescents en fin d'adolescence, ce sont presque des jeunes adultes, c'est-à-dire que ce sont des adolescents qui sont à la frontière du passage à l'âge adulte. Et en même temps, on ne sait pas quel âge ils ont, parce qu'ils sont très souvent qualifiés de vieils enfants, de jeunes enfants. Par exemple, Augustin et son ami, Augustin Maulne et François Sorel, sont tantôt qualifiés d'écoliers, tantôt d'étudiants. Donc il y a une indétermination qui est travaillée dans le texte de l'âge des personnages. Quand Augustin Maulne arrive dans cette fameuse fête des Sablonnières, il voit des enfants, mais après on apprend qu'ils ont 16 ans. À un moment, il est question d'une femme ou une jeune fille, et puis après, elle est qualifiée d'enfant. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail d'Alain Fournier pour indéterminer l'âge des personnages et de créer une réalité très complexe. Et je pense que là, il y a un grand intérêt du livre, c'est-à-dire que moi, je dirais que c'est ça l'adolescence, c'est-à-dire que c'est un âge où on ne sait pas quel âge on a véritablement parce qu'on est attiré, happé par l'âge adulte dans une sorte de tension très très puissante vers l'âge adulte. Et en même temps rattrapé au basque par l'enfance, parfois mélancolique de la fin de cette enfance. Et le livre raconte tout ça. Mais je crois que de ce point de vue-là, c'est vraiment un roman de l'adolescence et qui dit la grande complexité de cet âge, son indétermination, son permanent changement.
Ça fait un peu penser aux Enfants terribles aussi de Cocteau. Je crois que Cocteau était un lecteur d'Alain Fournier. Dans son adaptation au cinéma, les acteurs qui sont censés jouer des enfants, comme Jean Marais, ont en réalité 30 ans. Et ça crée aussi un espèce de phénomène comme ça, très étrange, qui n'est pas du tout réaliste sur l'âge des personnages. La question du réalisme, justement, en particulier sur cette question de l'âge, on peut la poser avec le grand mot de notre
Oui, d'ailleurs, il est frappant que ce livre a été adapté deux fois au cinéma et les choix des réalisateurs ont été très différents puisque l'un d'eux choisit d'incarner les personnages par des enfants, début d'adolescence, et alors qu'un autre en fait déjà des adultes. Alors c'est intéressant parce que au cinéma, il faut choisir, alors que quand on lit le texte, on n'est pas obligé de choisir, on peut passer d'un moment de l'âge à un autre de manière très rapide, et c'est ça qui fait l'intérêt du livre. Enfin, un des intérêts du livre, à mon avis.
Est-ce que l'école de la Troisième République est tellement loin de nous que ça aussi, ça met un petit peu à distance le Grand Maulne?
Je pense que tout le contexte socio-historique, socio-réaliste du roman est un contexte, en effet, dont les adolescents d'aujourd'hui n'ont plus tellement l'idée, parce que, par exemple, il est assez incompréhensible pour vu d'aujourd'hui, de penser que ces enfants de 17 ans sont encore à l'école, parce que c'est une école qui a toutes les caractéristiques de l'école primaire, avec un instituteur, avec un tableau, avec toujours les mêmes camarades, avec une cour d'école. Donc, voilà, il se trouvait que dans les campagnes, il y avait beaucoup. Enfin, à la fin de l'école primaire, c'était la fin des études et elle pouvait accueillir des enfants très assez âgés. Tout ce contexte aussi de la ruralité qui est très très précisément évoqué. Et qui a fait pendant très longtemps le charme de ce livre pour la plupart des lectrices et des lecteurs, et non pas parce que c'était leur milieu d'origine. Oui, c'était peut-être leur milieu d'origine, mais c'était aussi surtout un milieu qui était en train de disparaître. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le succès du livre, c'est-à-dire que il y a eu la fin de la ruralité, elle est inscrite comme programme dans ce livre. Pourtant, de manière très 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 prescience, hein, par Alain Fournier, qui écrit en 1913, et cette fin de la ruralité, elle commence à être véritablement effective après la Première Guerre mondiale et accomplie après la Seconde.
On va peut-être en reparler justement de ce moment vraiment charnière, de ce passage que représente le roman entre avant une certaine modernité. Il y a un écrivain que vous aimez bien, je crois, c'est Pierre Michon. Vous en parlez, vous l'avez même fait parler dans le dossier de votre édition chez Garnier Flammarion du Grand Maulne. Et Pierre Michon, il peut peut-être s'identifier un petit peu au Grand Maulne, parce que lui aussi, il a grandi dans une école avec un père qui, je crois, était instituteur.
Une mère institutrice.
Ou une mère qui était institutrice. Et il a même écrit un livre qui s'appelle La Grande Beune et qui ressemble peut-être un petit peu au Grand Maulne. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Ce visage royal était nu comme un ventre. Là-dedans, les yeux très clairs, qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris ne dénouent. Elle avait entre 30 et 40 ans. Tout en elle était connaissance du plaisir, celui sans doute qu'on entend d'habitude, mais celui aussi qu'elle dispensait à tous, à elle-même, à rien quand elle était seule et ne se voyait plus. Seulement, en posant là le gras de ses doigts, en tournant un peu la tête, et alors les sequins d'or qu'elle avait aux oreilles touchaient sa joue, en vous regardant ou en regardant ailleurs, et ce plaisir était vif comme une plaie.
La compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait de ce livre de Pierre Michon qui est, disait-il, une version pervertie du Grand Maulne. Vous l'avez lu, Tiphaine Samoyeau, vous y avez retrouvé le Grand Maulne?
Oui, bien sûr, effectivement, Pierre Michon, dans cette œuvre-là particulièrement, mais dans certains autres textes, et puis également Pierre Bergougnoux, sont des écrivains qui ont parlé de la fin de cette ruralité ancestrale, de ce monde-là.
Donc, c'est cette époque dont vous parliez, cette charnière qu'ils ont saisie.
Ils ont essayé de la saisir, et je pense qu'ils la voyaient déjà en germe dans le Grand Maulne, qui pourtant parlait d'un monde qui était encore là. Eux, ils parlent d'un monde qui était encore là dans leur enfance, mais dont ils ont vu la disparition. C'est un leitmotiv chez Bergougnoux, du point de vue du discours. Hein, chez Pierre Michon, ça s'incarne dans des situations des situations romanesques ou des descriptions de paysages. C'est vrai qu'il dit tout le temps, il le dit aussi dans la préface de cette édition, enfin dans la petite interview de cette édition, que ça a été un texte fondamental pour lui.
Et alors on y retrouve dans ce roman La Grande Beune un domaine enchanté, des fêtes étranges, l'atmosphère de l'école, tout cela qui rappelle en effet le Grand Maulne.
Oui, et puis surtout la question, on vient de l'entendre, la question du désir hein, qui sourd partout dans de ces paysages parfois âpres, pluvieux.
Mais peut-être pas de la même façon, c'est-à-dire peut-être de manière plus directe. Dans le Grand Maulne, le désir est un peu dévié.
Oui, il est un peu dévié, mais il est quand même très présent dans la dernière partie, et je dirais même dans la deuxième. En fait, je dirais partout, puisque chaque partie se répète la même histoire, mais sous un autre mode. Hein, la première partie le fait sous le mode du mystère, de l'héroïque fantasy, on pourrait dire, du jeu, de la fête. Et après, il y a deux parties dysphoriques. Il y a une partie qui répète, parce qu'à chaque fois, vous avez une scène de fête, hein, et puis à chaque fois, la fin d'une aventure. Dans la deuxième partie, on est davantage entre garçons, dans une sorte d'adolescence plus homo-érotique, et puis dans la dernière partie c'est le désir sexuel pour l'autre sexe qui va s'exprimer. Et
donc ça c'est une adolescence qui s'accomplit, une adolescence et une éducation sensuelle qui s'accomplit d'une partie à une autre.
Oui.
pour aller vers une espèce de maturité
plus ou moins, mais qui surtout se casse le nez ou se heurte au mur de l'âge adulte et donc et s'effondre et là c'est la catastrophe hein. C'est-à-dire que on voit bien que la fin du livre c'est l'impossible ou le refus d'entrer dans l'âge adulte. On parlait de Pierre Michon tout à l'heure, je crois que ce qu'il reconnaît dans le personnage d'Augustin Maulne et que beaucoup de lecteurs ont reconnu et devenir écrivain, c'est peut-être aussi ne pas justement arriver à cette immobilisation que représenterait l'âge adulte, mais c'est un personnage de perpétuel évadé, de fugueur, même à la fin, il prend sa petite fille et il s'en va. Mais je veux dire, il passe la nuit de noces avec sa femme, il s'en va, il passe une journée à l'école, il s'en va, ensuite il retrouve sa petite fille, il s'en va. C'est un perpétuel évadé. Je pense que pour Pierre Michon, l'écrivain, c'est celui qui reste l'évadé. Ouais,
un peu comme Rimbaud, on pourrait aussi faire cette comparaison des illuminations d'Alain Fournier et aussi de la recherche de la fuite.
Oui, d'ailleurs à un moment il le dit, enfin il est appelé dans le texte de Fournier, il est appelé, le Grand Maulne est appelé le grand gars et on peut rappeler que c'est l'expression qu'employait Mallarmé à propos de Rimbaud, hein, le grand gars. Donc oui, il y a bien sûr un côté Rimbaud du Grand Maulne.
Et puis ces adolescents, ces jeunes adultes qu'on admire précisément dans leur jeunesse et qui paraissent avoir le monde ouvert devant eux et l'avenir ouvert devant eux et qui précisément commencent à avoir des difficultés au moment de l'âge adulte. C'est un peu le syndrome de Peter Pan dont il est également question dans le dossier que vous avez dans les textes que vous avez réunis pour le dossier.
Alors c'est un texte moins optimiste que cela parce que ils ont une conscience très forte, ils ont un désir qui est incroyablement ouvert, mais ils ont une conscience très forte que beaucoup de murs et beaucoup d'interdits les empêcheront d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une conscience
dès le départ, donc dès l'enfance, dès l'adolescence.
Mais dès l'adolescence. Dès les premières pages du livre, il est dit que l'aventure allait se fracasser comme des vagues sur un rocher.
Mais c'est rétrospectif aussi, le narrateur sait un petit peu ce qui va se passer.
Inscrit d'emblée quelque chose de très négatif ou de très pessimiste dans ce qui se produit. Il y a peu de bonheur en fait dans ce texte, mais il y a beaucoup de d'émancipation ou de tentatives d'émancipation. Je trouve d'ailleurs étonnant que ça soit un texte qui était tant prescrit à l'école, parce que c'est un texte qui prône la désobéissance en permanence. C'est un texte même, il y a aucune autorité des adultes. C'est un texte qui est là pour mettre en scène une autorité sans autorité, qui est celle des adolescents ou des enfants. Mais quand on regarde le portrait qui est fait du père, si on regarde précisément,
l'instituteur.
Oui, c'est un instituteur qui se fait constamment chahuter, qui est fatigué, qui laisse sa classe dans un brouhaha permanent, qui ne voit rien de ce qui se passe, qui ne comprend rien à ce qui se passe. La mère, c'est une figure encore plus ambiguë, parce que d'ailleurs, elle n'est jamais appelée la mère, elle est appelée Millie. Et elle est juste là pour demander à son fils si ses chapeaux lui vont bien. Donc elle est plutôt dans un rôle de femme, de séductrice, mais jamais dans un rôle maternel. Donc ces figures d'adultes sont absentes, sont les enfants qui font la loi dans la fête. Et donc c'est un roman aussi sur la démission l'abolition des figures d'autorité.
Mais c'est peut-être aussi parce que le père, le professeur, l'instituteur, en fait, il a envie de jouer aussi en même temps que ses élèves. Et d'ailleurs, dans l'épisode de la besace où il y a un élève qui commence à sortir un petit peu des objets, lui, il s'approche, il regarde en même temps que les autres élèves. Donc c'est l'âge qui est aussi un petit peu aboli.
Oui, peut-être, on peut l'interpréter comme ça. C'est vrai que c'est peut-être le seul moment où le père se met à exister, c'est quand il redevient un petit peu enfant ou adolescent comme les autres personnages. Mais toutes les figures qui pourraient être des figures verticales sont moquées d'une certaine manière, hein, que ça soit le père, l'instituteur, les autres, tous les villageois, les adultes sont toujours des benêts qui se font voler leur voiture à cheval, qui sont voilà, c'est des histoires de fugue, c'est des histoires de vol, c'est des histoires ils boivent du vin en cachette dans l'épicerie en volant les gâteaux et le vin de l'épicière. C'est un roman sur toutes les transgressions adolescentes. Alors, je pense que les mettre en évidence, ça peut redonner de l'intérêt au livre, hein, parce que voilà, c'est un roman qui cherche toutes les formes possibles d'émancipation.
Alors justement, c'est peut-être comme ça quand on est professeur au lycée, au collège, qu'on devrait enseigner le Grand Maulne. C'est en montrant toutes les transgressions.
Voilà, je pense qu'on peut le faire comme ça. Et c'est vrai que j'évoque, vous le disiez à l'instant, le syndrome de Peter Pan. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu dans la société d'aujourd'hui qu'il ne l'était dans la société de l'époque d'Alain Fournier. C'est tous ces adultes qui continuent à jouer, qui restent des enfants, qui fuient les responsabilités, qui passent leur temps sur leur PlayStation, etc. Même à 30-35 ans, c'est quand même une figure assez fréquente. Je pense qu'il y a des enfants et des adolescents qui ont des figures d'adultes comme ça autour d'eux, qui sont liés à une manière de refuser d'affronter un certain nombre de difficultés du monde d'aujourd'hui. Ce syndrome de Peter Pan, des enfants qui ne veulent pas grandir, pas quitter l'univers du jeu, il est, je trouve, très bien mis en scène par ce livre.
L'univers du jeu, ou même l'univers de la fiction, parce que c'est évidemment un roman sur le réel et la fiction, et aujourd'hui, on vit dans la société du spectacle, donc la fiction est partout. Est-ce que vous pensez que, au fond, Alain Fournier, futur écrivain, ou déjà un petit peu écrivain à la fin de son adolescence, anticipe, parce qu'il vit lui-même dans la fiction, ce que les jeunes d'aujourd'hui expérimentent de manière encore plus grande, encore plus flagrante, parce qu'ils vivent à travers notamment les réseaux sociaux et puis à travers la déferlante fictions qui partout leur parviennent. Ils vivent dans ce monde de la société du spectacle. Est-ce que c'est aller un peu trop loin pour vous que d'analyser les choses comme ça ?
Moi, je trouve qu'on peut aller jusque-là parce que c'est un livre qui, de manière romanesque, travaille sur l'illusion et sur la frontière ténue entre le réel et la fiction. Et il suffit de passer un chemin ou une clairière pour que tout d'un coup, on ne sache plus si on est dans le réel ou dans la fiction. Et c'est précisément cette frontière ou ce brouillage des frontières qui constitue le fond de la culture d'aujourd'hui ou de l'environnement culturel d'aujourd'hui.
Nous sommes tous des grands Maulnes, nous sommes tous des Alain Fournier.
Non, je pense que ça c'est un des aspects du livre, hein, c'est-à-dire d'interroger cette frontière et de montrer qu'elle n'est pas forcément très nette, cette frontière. Hein, et on a aussi beaucoup lu des livres, puis vu des films, puis fait des jeux justement pour échapper à cette frontière, pour pouvoir la transgresser. Donc là-dessus, c'est juste une différence quantitative plus qu'une différence qualitative, ce qui se produit aujourd'hui.
Maulne, le grand Maulne. Le héros de mon livre est un homme dont l'enfance fut trop belle. Pendant toute son adolescence, il la traîne après lui. Par instants, il semble que tout ce paradis imaginaire qui fut le monde de son enfance va surgir au bout de ses aventures ou se lever sur un de ses gestes. Ainsi, le matin d'hiver, où après 3 jours d'absence inexplicable, il rentre à son cours comme un jeune dieu mystérieux et insolent. Mais il sait déjà que ce paradis ne peut plus être. Il a renoncé au bonheur. Il est dans le monde comme quelqu'un qui y va s'en aller. C'est là le secret de sa cruauté. Il découvre la trame et révèle la supercherie de tous les petits paradis qui s'offrent à lui. Et le jour où le bonheur indéniable, inéluctable, se dresse devant lui et appuie contre le sien son visage humain, le grand Maulne s'enfuit, non point par héroïsme, mais par terreur, parce qu'il sait que la véritable joie n'est pas de ce monde.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cette lecture d'Olivier Martineau d'une lettre à Jacques Rivière du 4 avril 1910. On va reparler probablement de ce paradis perdu de l'enfance, Tiphaine Samoyo, mais peut-être qu'il faut quand même résumer pour les auditeurs qui ne l'auraient pas en tête un petit peu ce qui se passe dans ce livre et quelle en est l'intrigue. Alors ça part avec une école buissonnière, on parlait de la fuite juste à l'instant, c'est comme ça que commence le Grand Maulne.
Ça commence par une école buissonnière. Il y a des écoles buissonnières tout le temps. Il y a peut-être une seule scène ou deux qui se passent quelques lignes donc dans une salle de classe. La plupart du temps, l'école est buissonnière et ça culmine même à la fin de la deuxième partie par une vaste école buissonnière où tous les élèves font l'école buissonnière, ce qui est quand même une sorte de comble de l'école buissonnière qui est souvent faite par quelques-uns tandis que les autres sont embrigadés dans la salle de cours. Et donc là, oui, c'est un roman de l'école buissonnière. Donc ça commence surtout par l'arrivée, le surgissement, l'apparition d'un nouvel élève dans la classe. Et cet élève, comme je l'ai dit d'emblée, il passe un jour à l'école et ensuite il s'enfuit. Il fugue et il lui arrive une étrange aventure où il se retrouve dans un étrange domaine où les enfants font la loi et où a lieu un magnifique bal costumé, prélude à une noce qui doit se passer et qui finalement n'a pas lieu. Celle de France de Galais avec Valentine, on apprendra tout ça dans la suite du livre. Et là, Augustin Maulne rencontre et tombe amoureux de la sœur de France de Galais, donc Yvonne de Galais. Et puis tout d'un coup, il repart, la fête s'arrête puisque la noce n'a pas lieu, et il retourne dans le village où il était écolier. Et toute la suite du roman va consister à essayer de retrouver à la fois ce domaine, qu'on n'arrive pas à localiser sur une carte, cette jeune femme, et peut-être la magie de ce qui a été capté ce jour-là et qui, semble-t-il, ne reviendra pas. Et en effet, elle ne revient pas, cette magie-là. Mais en revanche, le domaine, on le retrouve, et la jeune femme, on la retrouve. Donc il y a des quêtes qui sont accomplies. Ça prend beaucoup de temps, mais on la retrouve. Et elle n'est pas forcément retrouvée par le personnage qui la recherche. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de très complexe dans les relations entre les personnages qui sont pas des relations. Et c'est souvent comme ça aussi à l'adolescence, qui sont pas des, et dans les romans aussi, mais qui sont pas des relations duelles d'homme à femme ou d'homme à homme, mais qui sont des relations triangulaires où le désir fonctionne toujours à 3. Et ça, c'est très net parce que France de Galais donc est amoureux de Valentine, qui va devenir la maîtresse d'Augustin, qui lui-même est amoureux d'Yvonne, qui va plus ou moins se mettre en couple, certes chaste, mais avec François. Donc voilà, si on arrive à s'y retrouver, je pense que il vaut mieux lire le livre pour s'y retrouver.
Faut prendre des notes, faire un dessin.
Il y a quelque chose. On avait l'habitude autrefois de résumer comme ça les tragédies. Un tel aime un tel qui ne l'aime pas, qui aime un autre qui ne l'aime pas. Mais ouais, c'est pas tout à fait comme ça dans le Grand Maulne, mais il y a vraiment quelque chose de tourbillonnant dans les amours, dans les désirs, dans ce qui est amour, ce qui est amitié également, parce que il y a aussi du désir entre François Sorel et Maulne, et d'une certaine manière tous les regards de tous les personnages convergent amoureusement vers Maulne, y compris celui d'électrice et d'électeur. Ouais.
Mais donc c'est un roman sur une recherche. C'est la recherche de quelque chose à plusieurs niveaux qui est le thème principal de ce livre. Est-ce que c'est pour autant un roman initiatique selon vous ? C'est peut-être un petit peu différent quand même.
Non, c'est pas un roman initiatique puisque ce que l'on cherche, on ne le trouve pas et que même lorsque l'on trouve, on s'aperçoit que c'est autre chose qu'on cherchait. Puisque dès que la quête est accomplie, en quelque sorte, elle est aussi fracassée, disons. Et elle conduit à une autre quête qui de nouveau ne va pas fonctionner. Et donc à la fin, quand il retrouve sa fille, donc je raconte quand même la fin parce que
voilà. Bouchez-vous les oreilles ceux qui ne l'ont pas encore
lu. Oui, dans un sens, tout le monde l'a lu ou si on l'a toujours déjà lu, même si on ne l'a pas encore lu parce que il est tellement célèbre. C'est-à-dire que lorsqu'il retrouve enfin Yvonne de Galais, il l'abandonne. Hein, je l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que il l'abandonne pour essayer de retrouver Valentine pour le frère d'Yvonne, Franz. Bon, ça vient. Et elle est enceinte. Elle meurt en donnant naissance à une petite fille, dans les bras donc du narrateur, hein, qui était l'ami de Mold, qui plus ou moins élève cette petite fille jusqu'à ses 1 an, et puis Mold revient, et d'une certaine manière, sans même penser qu'il lèse son ami, prend cette fille et s'en va. Et il n'est pas du tout dit que c'est une fin heureuse et que cette fille sera heureuse avec lui. Hein.
Il n'y a pas de happy end. Mais en même temps, je crois que Alain Fournier avait imaginé en faire un roman pour les adolescents et faire aussi une version avec un rewriting, une réécriture plus joyeuse.
Moi, j'ai jamais su ça.
Non, bah alors c'est quelque chose que j'ai lu et que je vous apprends. Je suis ravi de vous apprendre quelque chose pour une fois, Tiffany Samoyeau, c'est bien.
C'est peut-être une fake news. Hein.
On va vérifier, mais je crois bien que c'est vrai. Est-ce que ce livre dont vous venez de nous raconter l'histoire, c'est l'histoire qui compte ? Vous allez nous dire non, évidemment, mais son atmosphère est tellement présente que finalement, plus on oublie l'histoire du Grand Maulne et plus on l'a à l'esprit.
Parce qu'on retient seulement quelques aspects. C'est comme toujours. Hein. On a tendance à ruiner les romans qu'on lit. On ne se souvient que de quelques personnages, on ne se souvient que de quelques traits, et encore pas forcément de manière juste ou exacte. Et c'est sûr que dans Le Grand Maulne, on se souvient essentiellement de Maulne, d'Yvonne de Galais et de la fête aux Sablonnières. On se souvient pas des Bohémiens, on se souvient pas de la deuxième école buissonnière, on se souvient pas très bien de Valentine, alors que ce sont des personnages qui prennent une grande importance. Hein. Les deuxième et troisième parties du livre sont plus importantes quantitativement en nombre de pages, disons, que la première partie. Il s'y passe énormément de choses. Or, on ne les retient pas, donc c'est une façon de dire que l'histoire ne compte pas. Mais là, moi, au contraire, je revalorise l'histoire dans sa durée, dans sa totalité, parce que elle m'intéresse. Je trouve qu'il y a des choses à y trouver. Donc, c'est pour ça que je l'ai racontée. Ouais. Parce que sinon, si elle m'intéressait pas, je vous aurais dit non quand vous avez proposé qu'on résume.
Oui, vous auriez osé. On va écouter justement l'atmosphère de cette fête avec cet extrait nouveau du Grand Maulne.
Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique quelque part jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, il se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fût répandue partout. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandys et se renseignait hâtivement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entrouvert ne laissât voir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé du piano. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi, c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Les uns assis sur des poufs feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux. D'autres étaient accroupis par terre devant une chaise et ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres auprès du feu ne faisaient rien. Mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maul n'avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille. Un grand manteau marron jeté sur ses épaules tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. Après cette fête où tout était charmant mais fiévreux et fou, Maul ne se trouvait là. Plongé dans le bonheur le plus calme du monde, sans bruit.
Alors, il y a des petits garçons, il y a des petites filles dans cette fête. Il y a des femmes dont on ne sait pas très bien quel âge elles ont. Parfois, elles sont des femmes, parfois elles sont des filles. Et si vous avez écouté l'émission d'hier, Tiffaine Samoyau, Philippe Berthier faisait remarquer que, en effet, il y avait très peu de femmes, de manière générale, dans ce roman, que c'était même un petit peu clos, un petit peu uniquement masculin. Et il vous renvoyait un petit peu la question émission interposée pour savoir ce que vous, en tant que femme professeur, vous pouviez penser justement de ce sujet. Est-ce que vous l'avez trouvé finalement trop masculin, ce livre ?
Déjà, en tant que lectrice, j'étais habituée depuis l'enfance à m'identifier sans problème aux personnages masculins. J'avais pas le choix, donc parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes, donc et puis souvent elles sont sacrifiées, les héroïnes.
Donc ça ne vous avait pas gêné.
Donc ça m'a absolument pas gêné, puisque j'ai aucun problème à m'identifier à Maulne et à son désir d'évasion. Il faut bien reconnaître que les femmes dans le Grand Maulne, si elles ne sont pas absentes, sont beaucoup sacrifiées. C'est-à-dire que elles sont prises dans les raies du désir masculin. Et comme c'est un désir masculin extrêmement complexe, ce désir s'accompagne de mise à mort. Donc oui, c'est pas du tout un roman féministe de ce point de vue-là, mais ce sont des personnages qui sont sacrifiés par les autres personnages.
Et elles n'ont pas d'identité elles-mêmes.
Si elles ont des identités, mais elles consentent d'une certaine façon à ce sacrifice. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les femmes ne peuvent pas être des mères pour Alain Fournier, on le voit bien. Donc là, je psychologise un peu, mais je parlais tout à l'heure de la mère qu'on appelle Millie et qui essaye ses chapeaux devant son fils. Le passage à l'âge adulte, pour la femme, c'est celui du devenir mère. Mmh. Et de même que le personnage de Maul ne peut pas devenir un adulte et continue à fuguer comme un adolescent, de la même manière, le personnage d'Yvonne de Galen ne peut pas devenir mère. C'est pour ça qu'en devenant mère, elle meurt forcément. Elle est forcément sacrifiée par la narration.
Elle perd tout son intérêt aux yeux du personnage.
On peut dire ça. En tout cas, elle n'existe plus au plan du roman. Elle a plus d'utilité au plan du roman. Je le formaliserai quand même un tout petit peu plus, mais c'est ça, ce serait ça le passage à l'âge adulte, comme ça qu'il l'envisagerait, et c'est rendu impossible. C'est un personnage qui ne peut plus être romanesque, en tout cas.
D'autres commentaires sur cet extrait qu'on vient d'entendre. Vous avez dit hors micro que c'était un petit peu fleur bleue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi à la lecture et que quand on réécoute les passages, on retrouve quand on les réécoute plus précisément?
Non, je pense que cette scène est une des celles qui a le plus frappé la mémoire des lectrices et des lecteurs. Hein, c'est cette scène de la fête. Mais finalement, en l'entendant, elle est un petit peu mièvre. C'est-à-dire que c'est une sorte de description assez idéalisée de l'enfance qui apparaît un petit peu chromo, un petit peu livre d'images. Moi, ce que j'essaye de défendre, c'est une lecture un peu plus complexe et cruelle de ce livre.
Oui, il y a de la cruauté, on n'a pas arrêté de le dire pendant toute la semaine. Il faudrait parler aussi, alors on parlait de la campagne tout à l'heure, et poser ce mot pour immédiatement dire qu'il n'est sans doute pas le bon, qui est celui de roman régionaliste, cette expression de roman régionaliste. La région, le Berry, est là bien présente, et en même temps, on ne peut sans doute pas dire que c'est un roman régionaliste, Tiphaine Samoyeau, Le Grand Môle.
Non, je dirais pas du tout que c'est un roman régionaliste, parce que le livre est ancré, mais bon, déjà Paris est très présent, on oublie aussi, hein, mais dans la dernière partie se passe presque entièrement à Paris. Tout le journal que retranscrit le narrateur, le journal de Mône, tout ça se passe à Paris. Il y a beaucoup aussi de comparaisons entre la campagne et la ville, entre les milieux paysans et les milieux ouvriers. Donc, comme beaucoup d'écrivains, il se sert comme toile de fond d'un paysage qu'il connaît et qu'il évoque, mais finalement qui peut correspondre à n'importe quel ancrage de dans un paysage de n'importe quelle lectrice ou lecteur. On n'a pas besoin de connaître ce paysage pour pouvoir s'identifier à ce qui a lieu. D'une part, et puis c'est pas du tout un roman conservateur, c'est un roman régionaliste, c'est un roman qui valorise les valeurs d'une région. Oui. C'est pas du tout ce qu'il cherche à faire.
Donc il n'y a pas, tout à l'heure on parlait de la question de la modernité, de ce moment charnière avant la Première Guerre mondiale où le monde bascule, enfin le monde occidental bascule dans une modernité un petit peu oppressante. Et là on est en effet un petit peu entre deux mondes. Est-ce que Alain Fournier a choisi le monde qu'il préférait? Est-ce qu'il est plutôt tourné quand même vers la belle époque finissante? Ou est-ce que vous avez l'impression que il y a chez lui un si ce n'est un goût, au moins une acceptation de la modernité?
Je ne pense pas du tout non plus que ça soit un roman passéiste, c'est-à-dire qu'il y a une forme de nostalgie de l'enfance, mais qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres littéraires, qu'on trouve dans Du côté de chez Swann, qui paraît la même année que Le Grand Môle aussi. Donc on peut très bien parler de l'enfance de manière à la fois mélancolique et non passéiste, c'est-à-dire que cette nostalgie, elle est commune peut-être à nous tous, nous toutes. Donc non, ça n'est pas un roman passéiste.
Et là, il y a peut-être les vieux métiers, le forgeron. Le
oui, mais ces vieux métiers, ils sont des vieux métiers vus pour nous, mais à son époque, ce ne sont pas des vieux métiers. Il y a encore dans les villages des forgerons et des tisserands.
Justement, c'est là où il est entre deux mondes.
Il est entre deux mondes, pas tout à fait encore. C'est-à-dire que c'est un monde qui va finir, qui va commencer à finir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et qui va définitivement finir à partir de 1945, où tout d'un coup, le monde rural est quasiment détruit. Donc, il n'est pas encore fini à ce moment-là. Mais ce que je trouve fort, c'est qu'il a la prescience qu'il va finir. Il y a quelque chose d'un monde. Et ça, on le voit dans beaucoup d'œuvres de cette année 1913, qui a été une année de très grands chefs-d'œuvre. Beaucoup d'œuvres qui ont eu cette prescience que quelque chose allait s'écrouler.
Lesquelles, par exemple? Quel roman?
Alors dans les romans, il y a Du côté de chez Swann, mais il y a aussi de la même année, il y a Le Sacre du printemps. Je sais plus, j'ai plus en tête forcément toutes les grandes œuvres qui sont parues cette année-là, mais il y a eu des études qui ont montré que il y avait une sorte d'urgence.
Apollinaire, imminence. Je crois aussi. Oui, Alcool, oui, ça doit être 1913.
C'est absolument. Il y a une sorte d'imminence du danger. Alors évidemment, la guerre, elle commençait à s'annoncer, mais que cette guerre allait transformer très profondément la société, il y a cette préscience-là dans Le Grand Môle, il y a aussi cette préscience-là dans La Recherche du Temps Perdu.
Du coup, c'est un peu un roman qui est un lieu de mémoire aussi pour les Français des générations suivantes.
Mais je pense que ça explique en grande partie son grand succès indémenti tout au long du XXe siècle.
En quelques minutes, et au moment même où M. Sorel, quittant le tableau, se frotte les mains pour en enlever la craie, au moment où trois voix à la fois crient du fond de la classe « Monsieur, le Grand Môle n'est parti !» l'homme en blouse bleue est à la porte. Et levant son chapeau, il demande sur le seuil « Excusez-moi, monsieur, c'est-il vous qui avez autorisé cet élève à demander la voiture pour aller à Vierzon chercher vos parents ? Il nous est venu des soupçons. » « Mais pas du tout, » répond M. Sorel. Et aussitôt s'élant la classe un désarroi effroyable. Les trois premiers, près de la sortie, se sont précipités à la porte. Au violent piétinement de leurs sabots ferrés sur les dalles de l'école a succédé, dehors, le bruit étouffé de leurs pas précipités qui mâchent le sable de la cour et dérapent au virage de la petite grille ouverte sur la route. Tout le reste de la classe s'entasse aux fenêtres du jardin. Certains ont grimpé sur les tables pour mieux voir. Mais il est trop tard. Le grand monde s'est évadé.
La compagnie des œuvres sur France Culture. C'est un peu une scène d'école, mais aussi une scène de théâtre qu'on vient d'entendre dans cet extrait lu par Guillaume Gallienne. L'école, c'est un peu le théâtre, justement, chez lui, chez Alain Fournier, non ?
Oui,
la salle de classe.
Oui, c'est le théâtre. Il y règne toujours un grand désordre, et c'est surtout une scène qui ouvre sur l'extérieur, hein, qui ouvre dont on s'échappe. Mais il y a en effet un côté très très théâtral dans le livre, ne serait-ce que parce que les personnages sont très souvent aussi déguisés, donc c'est une manière aussi de s'affranchir d'une certaine condition sociale paysanne, d'un certain enfermement dans la terre, dans la région. C'est aussi pour ça que c'est pas un roman régionaliste, puisque de cette région on s'évade aussi.
Cette région qui n'existe un peu nulle part.
C'est un peu nulle part, oui. Oui, c'est ouvert. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est impossible de retrouver sur la carte le château où s'est trouvé pendant ces trois jours le Grand Maulne. C'est-à-dire que c'est un territoire qui échappe à la carte, et d'une certaine manière, parce que c'est le territoire de l'école buissonnière, parce que c'est le territoire de l'enfance, c'est le territoire de l'adolescence, donc il peut être indéfiniment étendu.
C'est le territoire de la féerie aussi.
Oui, c'est aussi le territoire de la féerie. C'est le territoire qu'on pourrait dire exactement le territoire de l'aventure, hein, qui est toujours comme le marque Stevenson dans L'île au trésor, c'est-à-dire c'est une carte blanche, hein, que l'on peut remplir exactement comme on veut. Et il est certain que Alain Fournier avait conscience, et c'est quelque chose qu'ils ont un peu essayé de théoriser avec Jacques Rivière, d'écrire un roman d'aventure. Que l'aventure de ce temps, c'était sans doute cette quête d'émancipation, cette rencontre avec le désir, et que voilà, c'est ça l'aventure.
Qu'on trouve aujourd'hui, ou que les adolescents, et pas que d'ailleurs, peuvent trouver dans des romans de fantasy ou d'heroic fantasy. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Le Merveilleux du Grand Maulne qui fait écho, ou qui est d'une certaine façon repris par ces gros livres que les adolescents aiment particulièrement?
Tout à fait. Il y a un climat d'heroic fantasy dans la première partie du livre, hein, qui est démenti par la suite, hein, qui se trouve être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sinistre. Hein. Et c'est pour ça que certains critiques ont dit que cette suite n'était pas très intéressante, ou que on a tendance un peu à oublier cette partie du livre parce que ce climat d'heroic fantasy est suffisamment puissant, étrange, pour marquer la mémoire de manière plus forte qu'une réalité, qu'un texte réaliste qui est recouvert par d'autres réalités beaucoup plus facilement, bien sûr.
Alors vous soulignez aussi, Tiphaine Samoyo, la présence d'un personnage qu'on note assez peu d'habitude, c'est celui de Pierrot, qui est une sorte de bouffon qui arrive dans la fête. Vous pouvez nous redire un petit peu de quoi il s'agit ?
Donc cette fête qui doit aussi être un mariage, et qui est un mariage manqué, donc là aussi on est entre le monde de l'enfance, puisque on nous dit que c'est une fête où c'est les enfants qui font la loi, ils ont tous les droits. C'est aussi un mariage, donc c'est aussi la fin
passage
de l'enfance.
À l'âge adulte.
On a vraiment l'imbrication de ces deux réalités, de ces deux ordres de réalité et d'âge. Et les enfants ont fait venir des comédiens, pour des bohémiens, pour assurer l'animation de la fête. Hein. Ils ont tous les droits. À ce moment-là, ils sont riches. Quand je disais que la suite répétait en l'inversant ce qui s'était passé dans la première partie, c'est que après, la famille est ruinée et qu'il n'est plus question de fête comme ça. Le personnage de Franz s'est aussi lui aussi enfui. Mais disons que dans cette première partie de la fête, ils ont fait venir des comédiens pour s'amuser. Et parmi eux, il y a un Pierrot. Et ce personnage de Pierrot, il est à ce moment-là un personnage de Pierrot joyeux, un personnage de Pierrot gay. Et ensuite, il devient, il connaît des avatars de Pierrot lunaire ou de Pierrot triste. C'est l'intérêt de cette figure du Pierrot, c'est que qui est une figure très symboliste, hein, qui marque aussi l'attachement d'Alain Fournier à des références plus anciennes que les références de la modernité. Il est marqué par le symbolisme, il est marqué par Maeterlinck, il est marqué par Jules Laforgue. Et il y a beaucoup de Pierrot hein, chez Jules Laforgue. Et il y a aussi des Pierrot dramatiques, des Pierrot blancs, hein, des Pierrot tristes. Et le personnage, moi, que j'aime bien, hein, qui est le personnage assez charnel de Valentine, c'est-à-dire celle qui doit se marier avec Franz de Galais au moment de la fête étrange et le mariage qui n'a pas lieu, qui est aussi une femme sacrifiée parce qu'elle se sacrifie en disant que Franz ne peut pas l'aimer parce qu'elle n'est pas assez bien pour lui, hein, parce qu'elle est trop modeste socialement, etc. Et qui sera aussi la maîtresse donc de du grand môle. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, les personnages se partagent. Oui, c'est toujours ces triangles. Eh bien, elle est comparée aussi à un Pierrot. Ouais. Ce personnage de Valentine.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de Pierrot dans la littérature de la fin du 19e.
Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et en particulier chez Laforgue, qui a mis en scène dans les complaintes, plusieurs complaintes de Pierrot, et donc qui met en scène un Pierrot qui n'est pas un Pierrot joyeux comme celui qu'on voit dans les tableaux de Watteau, mais qui est un Pierrot de fête, mais qui est un Pierrot qui devient un Pierrot lunaire et
oui, parce que l'époque
mélancolique et triste.
S'identifie à ce personnage de Pierrot, ce personnage de clown triste, et c'est là où Alain Fournier a quand même, malgré le fait qu'il disait ne pas s'intéresser tellement à ce qui se passait, à la politique de son temps, par exemple, il a quand même vraiment saisi et infusé ce sentiment un petit peu fin de siècle dans lequel il baigne et prévu justement, sans pouvoir le prévoir exactement, mais enfin, la catastrophe de la Première Guerre mondiale.
Oui, mais de toute façon, un romancier, il a le sentiment très tôt que c'est la forme qui sera la sienne. Il le lie au sentiment du romanesque qui habite son existence, mais il est aussi lié au fait que, comme beaucoup de romanciers, il est une éponge. Hein, mm-hmm. C'est forcément quelqu'un d'empathique qui reçoit de manière exagérée ou supérieurement à d'autres l'esprit de son temps ou les affres ou les difficultés ou les joies.
Et vous parlez des voix presque blanches du grand Maulne, non pas neutres, mais parcourues d'une émotion contenue. Est-ce que ça, c'est un trait d'époque? Est-ce que c'est de la littérature un peu post-symboliste? Est-ce que c'est cette influence-là?
Non, j'entends quelque chose peut-être de plus moderne ou de plus singulier dans l'écriture du grand Maulne que je ne trouve pas. Bon, il y a pas mal d'alexandrins qui traînent, hein, c'est vrai. On le voit quand on lit le texte. Mais il y a quand même une recherche d'écriture presque blanche, c'est-à-dire il y a pas beaucoup de métaphores. Il y a une volonté d'être assez au ras des choses, même lorsque l'on parle d'enchantement ou de fantaisie.
Parce que précisément, l'enchantement est exactement collé avec la réalité dans l'œil des personnages. La frontière existe à peine. Le passage dans le monde enchanté n'est pas marqué très précisément.
D'ailleurs, c'est marqué souvent par une phrase assez poétique. Je disais, bon, il y a des alexandrins qui traînent. Moi, je les repère assez facilement lorsque je lis de la prose parce que ça m'agace un peu. Mais il y en a un très très beau qui marque la jonction justement entre réalité et fête et fantaisie. Et c'est quand Maulne se dit intérieurement, lorsqu'il entend, il commence à entendre des voix et des musiques au-delà du chemin dans lequel il s'est perdu, et il dit « Y aurait-il une fête dans cette solitude ?» Ça, c'est un alexandrin. Y aurait-il une fête dans cette solitude? Et c'est le moment, c'est une belle phrase hein, d'ailleurs, et c'est le moment où on bascule d'un monde à l'autre. Et c'est ces moments-là de poésie où on bascule d'un monde à l'autre. Je pense qu'on pourrait le repérer à d'autres endroits du texte. On n'a pas fait une analyse suffisamment détaillée pour pouvoir le dire, mais j'ai repéré ce moment-là.
Et par ailleurs, pourquoi est-ce que ça vous agace d'entendre des alexandrins en général dans le texte, dans les textes?
Est-ce qu'il me semble que c'est une sorte de musique peu inventive, hein, c'est-à-dire c'est comme si on avait été bercé et que c'était une sorte de rythme qui revenait et qui empêchait parfois l'expression propre ou singulière d'un auteur. Mais bon, il y a des moments où ça marche bien. Là, dans ce cas-là, ça marche bien.
Au final, dites-vous, on reste sensible à la beauté triste du Grand Maulne, qui est aussi celle que l'on trouve aux mondes engloutis et aux villages abandonnés. Vous pourriez toujours signer cette phrase de conclusion.
Oui, mais parce que moi, je suis partie d'une génération qui a peut-être encore un petit peu connu ce monde ou la fin de ce monde, puisque mes grands-parents étaient des villageois qui étaient encore liés à cette ancestralité. Donc, j'ai connu un petit peu ce monde-là. Et si j'ai signalé cela, c'est d'un point de vue même biographique, puisque le village dans lequel mon grand-père habitait et que j'ai connu dans mon enfance, c'est un village qui a été abandonné lorsque j'étais adolescente et qui maintenant, alors que je ne le savais pas quand j'ai écrit ça, a été détruit.
Ah, et bien c'est sur une note tout à fait triste que nous allons donc vous quitter, Tiphaine Samoyo. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous parler aujourd'hui du Grand Maulne. Les auditeurs qui voudraient lire ou relire ce texte peuvent évidemment se référer à votre édition de ce roman paru en 2009 chez GF Garnier Flammarion, avec tout un dossier pour le comprendre au mieux. Tout de suite, c'est la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique proposée aujourd'hui par Alexis Broca, écrivain, critique, rédacteur en chef adjoint du magazine Lire, le magazine littéraire. C'est difficile de le dire comme ça, faut dire plusieurs fois magazine.
Ça viendra.
Comment allez-vous, Alexis ?
Bonjour Tiphaine.
Vous venez nous parler de la rentrée littéraire encore ?
Je viens vous parler un petit peu de ce numéro de rentrée littéraire, en effet, puisqu'il est toujours en vente, jusqu'à la fin du mois.
Mais oui, c'est un mensuel.
C'est un mensuel, voilà. Et bah, écoutez, on trouve dans ce numéro de septembre tout ce qu'il faut savoir pour aborder cette rentrée littéraire sereinement. Vous aurez un grand entretien avec Emmanuel Carrère, vous rencontrerez Carole Martinez, saisie dans son univers, vous aurez droit à un portrait de Muriel Barbery et à une rubrique critique évidemment extrêmement nourrie puisque c'est la saison. Et dans ce numéro, on trouve aussi, et c'est l'objet de cette chronique, un vaste dossier consacré à la figure éminente et encore assez mystérieuse finalement de Simone de Beauvoir.
Alors pourquoi Simone de Beauvoir et pourquoi maintenant ?
Alors Simone de Beauvoir, bah parce qu'elle a beau avoir disparu voilà à 34 ans, elle fait paraître un livre en octobre prochain aux éditions de Lerne. Il s'appelle Les Inséparables. C'est un court roman inédit où Simone de Beauvoir parle d'une certaine Andrée qui est le double d'une jeune fille réelle nommée Zaza, qui mourut à 21 ans et qui fut le grand amour de jeunesse de l'autrice. Voilà.
Et l'autre bonne raison de parler de Simone de Beauvoir ?
Et l'autre bonne raison, c'est que, bien que le débat actuel sur le féminisme, mais aussi sur la question raciale ou le port du voile, la remette sur le devant de la scène. Ça, c'est un grand article de Manon Garcia qui nous explique ça. Alors, c'est vrai que Simone de Beauvoir peut être décrite comme une féministe, entre guillemets, vieille école, qui s'intéressait à libérer les femmes afin qu'elles bénéficient d'une latitude comparable à celle des hommes, ou équivalente à celle des hommes, et dont la réflexion se fondait sur son expérience de femme blanche, écrit Manon Garcia, appartenant à la bourgeoisie intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on peut la rapprocher des féministes universalistes comme Elisabeth Badinter. Mais en même temps, elle a jamais considéré que le combat féministe devait être exclusif de la lutte contre le racisme ou contre le colonialisme. Elle s'intéresse à la façon dont les oppressions interagissent. Et pour autant, ce n'est pas encore une féministe intersectionnelle, comme on dit aujourd'hui.
En somme, votre dossier montre que Simone de Beauvoir n'était pas seulement une disciple de Sartre.
Alors, en effet, Mathieu, c'est vrai que Simone de Beauvoir est souvent montrée comme la première disciple de Sartre. Et on a évidemment un article qui revient sur leur couple très libre et très aimant. Mais on a aussi un article qui porte sur leurs engagements politiques et qui montre bien qu'au moment où Sartre commençait à donner dans le gauchisme, à soutenir la gauche prolétarienne ou à justifier l'attentat palestinien contre les athlètes israéliens, Simone de Beauvoir, elle ne suit pas vraiment. Elle préfère en revenir à son féminisme. Et puis on a un autre texte aussi de la professeure d'Oxford, Kate Kirkpatrick, qui revient lui sur les écrits de jeunesse de Simone de Beauvoir et sur la façon dont elle construisit sa philosophie. Et ça, c'est vraiment passionnant parce qu'on voit Simone de Beauvoir, très jeune, écrire des phrases comme l'acte et l'affirmation de nous-mêmes, ou d'autres phrases comme c'est par la décision libre seulement et grâce au jeu des circonstances que le moi vrai se découvre. En somme, des années avant l'invention de l'existentialisme, Simone de Beauvoir semblait en esquisser déjà les contours.
Merci beaucoup Alexis Broca. Nous allons donc lire ça dans Lire, le nouveau magazine littéraire actuellement en kiosque. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Marie-Laure Ciboulet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jean-Frédéric. Demain, nous terminerons notre semaine en compagnie de la psychanalyste et poétesse Sylvie Sauvage. Elle viendra nous parler des lectures d'enfance d'Alain Fournier.